Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des amis de la Creuse qui sont venus hier, qui ont fait plus de 8 heures de route, pour nous présenter un petit peu ce qui se passe par chez eux, parce qu'il n'y a pas que la Bretagne qui est concernée par ces demandes de permis, c'est l'ensemble du territoire français. Et ils vont nous, puisque cette journée est placée sur le thème de l'échange, de l'information, ils vont nous présenter la situation par chez eux. Merci à eux d'être venus.
Bonjour. Est-ce que vous savez où c'est la Creuse ? Voilà. Vous avez entendu parler du permis de Villerange ? Donc, bonsoir à tous. Donc, nous, on vient de la Creuse. Donc, ils se présenteront. Hein. Moi, je m'appelle Pierre Treille. Donc, je suis géologue, justement. Je connais bien les questions d'eau et je suis justement spécialisé dans la recherche d'eau dans ce qu'on appelle le réservoir fracturé. J'entends le terme de nappe, c'est pas un terme tout à fait approprié. On n'a pas de nappe phréatique à proprement parler. Mais si vous allez au Tas-de-Poix, par exemple, vous tournez vers les terres, vous voyez tous ces systèmes de fractures. Les granits sont très fracturés, l'eau rentre là-dedans. Alors il y a des systèmes qui s'organisent, c'est un peu différent des nappes phréatiques, mais il y a de l'eau. Il y a des eaux souterraines de très bonne qualité même. Donc, si j'ai mis cette carte, c'est pas ma dernière peinture artistique. C'est pour vous montrer qu'en fait, si on vient exploiter chez nous, en Limousin et chez vous, il y a un lien. C'est pas juste pour nos jolies filles. On est sur le même terrain, en fait. Hein. C'est le même ancien massif. Donc là, je pense que vous voyez à peu près où vous êtes. Nous, là, on est ici, là. Vous voyez la souris ? Voilà. Donc en fait, quand on regarde les structures géologiques, on voit que si par exemple je suis comme ça, ça passe dessous. On a le bassin du Poitou qui vient mettre une petite nappe là, mais tout ça c'est superficiel. En fait, on est vraiment sur le même alignement. Et nous, on a une nappe phréatique, une petite ici, cette tache bleue là. C'est la nappe de Gouzon. oui. Pourquoi je dis bleu, moi ? Bon, ça montre que vous suivez, c'est bien. Donc cette tache jaune, voilà, c'est une nappe phréatique, une vraie. Hein. Bon, elle n'est pas grande, mais elle alimente quand même.
18 communes.
Hein. 4 000 personnes. Donc ce qui intéresse les miniers, c'est ces axes-là. Cet axe de faille ici et cet axe de faille-là. Donc c'est le même terrain que chez vous, hein. C'est des granites. Les paysages se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu comment c'est pour vous visualiser, vous ayez envie de venir peut-être. Et je vais vous présenter vite fait le projet que moi j'ai mené en tant que géologue, parce que quand j'ai appris qu'il y avait un permis minier qui couvrait à côté de chez moi, je me suis dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Donc ça c'est une carte que j'ai faite. L'idée c'est quoi ? C'est pas moi qui l'ai eue, hein. C'est d'essayer de valoriser le plus possible ce qu'il y a. Essayer de montrer ce qui compte pour nous, pour les gens dans le paysage. Donc c'est pas encore tout à fait complet, mais là, en gros, on est entre Limoges et Clermont. Là, à gauche, on a Gouzon, c'est la petite ville du coin. On a Évreux-les-Bains, qui est située ici, là, une ville également. Le permis, alors c'est fait pour A0, peut-être ça se voit pas, on voit en contour, là. En gros, c'est toute cette patate, donc ça fait 47 km². Ce qu'on remarque assez facilement, c'est la quantité de rivières, même s'il y a beaucoup d'informations, il y aura une autre carte, on verra mieux. Il y a 54 km de rivières sur 47 km², je crois. Je vais vous dire exactement, vérifier. Donc on a plus 48 km², 53 km de rivières. Donc on a plus d'un kilomètre de cours d'eau par kilomètre carré, c'est énorme. Ces rivières, il y a 35 km qui sont classées loi sur l'eau. Donc toutes les rivières en rouge sont classées loi sur l'eau, mais apparemment ça ne gêne pas les milliers. On a ici, là, il y a tout un tas de zones protégées, de SNIEF, de zico pour les oiseaux, une réserve naturelle nationale. Donc il y a tellement de trucs, on voit même pas l'étang qu'à tout. Ça c'est l'étang des Landes. C'est juste à côté du permis. Hein. C'est pas forcément en étant super joli ou très profond, mais c'est la vie. Voilà. Ça bouillonne de vie là-bas. C'est incroyable. Il y a plein d'oiseaux migrateurs. C'est tout le secteur. On est vraiment sur une zone exceptionnelle sur le point de vue de la vie. D'ailleurs, ils sont un petit peu... ils ont peut-être pas fait assez grand parce qu'en fait, c'est des zones très humides avec des étangs, des lacs, des marécages. On voit toutes ces mares, là, c'est des mares à tritons. C'est marrant, il y a une association qui a fait le tour de toutes les mares de tout le Limousin, 900 mares, et ils ont trouvé ces choses-là que là. Il y a plein de choses qu'on a que là, c'est vraiment un bouillon de vie. Donc l'idée, c'est de valoriser, pas de dire chez nous c'est plus mieux qu'ailleurs, c'est de valoriser tout ce qu'il y a. Un autre truc intéressant, c'est ici, là, il y a ce fameux forage qui alimente les 17 communes et son périmètre de protection qui est complètement dans le permis. Voilà. La nappe phréatique, c'est en gros tout ce qui est en grisé là. C'est tout ce secteur-là. Tout ça, c'est notre nappe phréatique et on a une autre nappe phréatique là. Voilà. Voilà ce que je voulais dire à peu près. Donc il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus. On a évolué, ben, tiens, si vous avez des rhumatismes, vous en avez peut-être entendu parler. C'est des eaux hydrothermales, ça sort à 60 degrés. Hyper minéralisé, c'est imbuvable même. Et c'est un système hydrologique très rare. C'est là, là. Voilà. La dernière étude, elle remonte à plus d'un siècle. Je pense qu'ils n'avaient même pas les cartes géologiques à l'époque. Ils situent l'alimentation de ça de l'autre côté à l'est. Mais en fait, c'est beaucoup plus probable que ça s'alimente sur le permis. Alors, l'hydrothermalisme, c'est très fragile. Hein. Moi, je suggère qu'avant d'aller essayer de faire des trucs, là, il vaudrait mieux se renseigner là-dessus. C'est exploité depuis plusieurs milliers d'années. Hein. Du temps des Romains, c'était l'usine. Il y avait tous les soldats qui venaient se faire soigner. Mais même du temps des Gaulois, c'était utilisé. Enfin bref, beaucoup de choses à dire, je passe. Ça, c'est un truc qu'on a chez nous. C'est une bombe. Ça s'appelle la mine d'or du Châtelet. C'est une ancienne mine d'or. Pierre vous en parlera plus que moi. Là, elle est en cours de réhabilitation. Donc, pour situer, le permis est là. La mine d'or du Châtelet, elle est là. On est juste en aval des rivières. On a une autre mine d'or aussi, complètement de l'autre côté. Là, le Bouzon, 201 tonnes d'uranium. Pas de minerai, hein. 201 tonnes d'uranium extrait. Donc tout ce secteur intéresse beaucoup les miniers, mais bon, nous, on aimerait bien quand même valoriser d'autres choses. Donc on a cette ancienne mine, donc Pierre vous en parlera, qui est une bombe, hein, vraiment une bombe. Ça relâche, c'est pas 10 microgrammes par litre, hein, c'est pas 10 millionièmes de grammes comme la norme d'eau potable, là, que ça rejette du 500 mg par litre, 50 000 fois la norme. D'arsenic. Et on ne mesure que l'arsenic, parce que quand on regardait les oxydes qu'il y avait avant, 50 ans d'exploitation, ça enrichit des banques, 50 ans d'abandon total, réhabilitation de fortune, c'est vraiment se moquer du monde. Et les oxydes, ça rappelle du cyanure, du mercure, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la voie, c'est à l'entrée du permis, donc c'est pas une très très grosse rivière. Hein. Là, un petit peu plus bas, ça se forcit. Donc, j'ai pris une rivière juste pour vous montrer quelques photos. Là, ce qu'on mesure, c'est la conductivité dans l'eau. La conductivité, en deux mots, ça reflète si une eau contient beaucoup d'éléments minéraux. Une eau minérale va être très conductive. Je pense que vous voulez. Et s'il y a une pollution qui arrive, une pollution, ça va rejeter des éléments dans l'eau. On va dissoudre des éléments dans l'eau. Ça va augmenter la conductivité. Peut-être que vous voyez où je veux en venir. L'idée de ça, c'est d'essayer de détecter si une pollution se produit. Donc ce qu'on fait là, j'y reviendrai, mais on a mesuré la conductivité à l'état naturel sur tous les cours d'eau. Donc ça, c'est la Voueize, on est au milieu du permis, c'est à mi-chemin. Ce jour-là, bon, pour éviter d'avoir des litiges avec parce que la Voueize est très difficile d'accès à certains endroits où il y a des grosses pentes, où il y a des propriétés. Donc pour pas avoir de litige et de contestation sur les mesures, on a pris des canoës. L'eau, on peut y aller. Hein. Tout le monde a le droit d'aller sur l'eau. Donc il y a plein de petits ruisseaux qui arrivent comme ça. Donc vous voyez, en quelques kilomètres, en fait, cette rivière est passée du petit cours d'eau qu'on voyait tout à l'heure à ça. En fait, c'est la zone où elle naît. C'est vraiment une zone hydrologiquement, c'est hyper intéressant. Il y a des rivières qui naissent là, littéralement. Et cette rivière, elle naît en quelques dizaines de kilomètres. Donc, il y a des paysages qui changent, des fois ça s'énerve un peu. Désolé pour la photo, mais ça, c'est les gorges de la Voie, c'est très dur, il y a beaucoup de contraste de lumière, beaucoup de mouvement dans l'eau. Pour prendre une photo, il faut être un pro là-bas. Mais c'est un endroit hallucinant. C'est vraiment. Voilà, c'est vraiment un endroit splendide. J'ai vu beaucoup de rivières, mais là, c'est un coin. On est juste à la sortie du permis, là. Tout ce qui se passe sur le permis, ça va ressortir là, s'il se passe quelque chose. Et c'est vraiment un coin extraordinaire. Donc voilà un petit peu ce qu'on veut protéger. Ça arrive à Chambon-sur-Voueize, un petit village du Moyen-Âge. Voilà. Quand on regarde en amont, on voit les gorges, on voit qu'il y a un bout de relief. Voilà, la Voueize sort de là, elle rencontre juste à 100 mètres plus loin la Tarde. Donc ça, c'est sa copine, sa grande sœur. Une autre rivière qui débite beaucoup. Donc vous voyez, c'est très. Il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup d'eau. On est vraiment dans le monde de l'eau. On parlait d'eau beaucoup aujourd'hui. On est dedans. Donc ça, c'est des étudiants qui ont été mis à disposition pour aller mesurer justement dans tous les cours d'eau. Il y en a un paquet. Pour montrer un petit peu l'humain, ça c'est une manifestation altérée. Ça, c'est un squattage de marché. Avec des jeux pour attirer l'attention, parce qu'il y a un boycott total des médias. Et quand les médias donnent la parole, il y a toujours des gens en conflit d'intérêts qui parlent. Quoi. Jamais nous. Hein? Donc, deux mots sur le projet que j'ai mené. Donc, voilà. En haut, on a ces rivières coulent vers la droite. Donc, ici, c'est la Voueize. En bas, c'est la Tarde. Donc, ils ont fait une erreur sur ce permis stratégique, c'est que vous regardez, vous voyez que tout ce qui. S'il se passe quelque chose sur le permis, s'il y a une pollution, pour moi, c'est hyper bien drainé, c'est hyper bien échantillonné. Je vais avoir cette pollution, quoi qu'il arrive, je sais que j'aurai à la sortie ici. Ce qui peut peut-être expliquer la forme de votre permis. Parce que je ne pense pas qu'ils aient repris la même erreur. Si quelque chose se passe, je l'aurai là. Voilà. Donc si là, par exemple, je mettais un conductimètre en permanence, quelque chose qui mesure la quantité d'ions dissous dans l'eau, d'oligo-éléments, je pourrais détecter si quelque chose se passe sur le produit, sur le permis. Donc là, tous ces points, c'est des endroits qu'on a contraints avec des analyses d'eau. Alors la plupart sont déjà faites, les grosses, A, B, E, H, Z, Y. Donc tout ça, c'est des analyses très, très, très...
C'est les 54
km,
ça.
Ça fait 54 km². Attends.
53 km linéaires
de. 53 km de cours d'eau uniquement dans le permis. Donc j'ai un bon drainage, un bon échantillonnage de mon espace. Quoi. J'ai pas besoin de chercher des systèmes compliqués pour détecter si une pollution va se produire. Je l'aurai à la sortie. Donc on a contraint ça avec beaucoup d'analyses. Donc c'est pour ceux qui connaissent ces analyses d'eau type RS, sans les bactéries et sans les pesticides. C'est des programmes très chers. Comment on a financé ça? Quelqu'un a eu l'idée bizarre d'aller au Conseil Général et de dire « Est-ce que vous voulez nous les financer ?» Et puis il y a eu un don en nature du Conseil Général. Incroyable, mais... Donc en fait, la question c'est quoi? S'il se passe quelque chose sur ces permis, qu'est-ce que vous avez pour prouver qu'il s'est passé quelque chose? Il y a plein d'endroits où l'état de l'eau est complètement pourri et on leur dit « Ah ben c'est pas nous, c'est naturel », alors qu'on n'a même pas envie de s'approcher de l'eau. Donc là, on aura, si on nous dit « Est-ce que vous pouvez prouver ?» Oui, on peut prouver. Alors attention aux analyses, il ne faut pas faire n'importe comment. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut faire attention. Si vous voulez, envoyez-moi un mail, je vous expliquerai. Parce qu'il y a des chances que votre analyse ne vaille rien, si vous ne faites pas attention à certaines choses. Donc voilà, donc là on a criblé, donc on a quantifié un état, on a quantifié finalement la qualité des eaux. Donc ça c'est ce que j'avais fait pour qu'on toutes nos mesures ne soient pas contestables, j'ai intersecté tout ce qui est rivière et route, cours d'eau et route chemin, pour qu'on puisse à chaque fois accéder dans le domaine public. C'est pour montrer que sans jamais mettre les pieds sur un terrain privé, on peut déjà bien échantillonner en général un secteur. Attention aussi, donc ça c'est le niveau d'eau de la Voueize à la sortie. On se détermine un cadre dans lequel on fait ou des mesures de conductivité dans l'eau et des analyses. Parce que les rivières, ça bouge tout le temps. Juste après une pluie, on peut avoir des pollutions locales qui sont drainées. Nous, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est quelque chose de comparable. C'est que si on fait des analyses aujourd'hui, on puisse les comparer l'année suivante, etc. Donc, on s'est donné un cadre de contexte. Donc, 4 jours après une pluie, moins 0,8. Enfin, on s'est donné un cadre pour travailler. En dehors, on ne fait ni analyse ni prélèvement. C'est l'étiage, en fait, le niveau bas. Et ça, c'est le résultat de la carte de conductivité. Donc, je conclue là-dessus, vous allez voir l'intérêt. Donc ça, c'est une carte de conductivité à l'état naturel dans les rivières. Par exemple, ici, sur la Tarn, vous voyez qu'on a 89. Donc c'est des micro-siemens, mais passons. Ici, on a 89 également. Si je n'ai pas fait cette carte initiale, je vais aller là et imaginons que je mesure 110. 110, on peut l'avoir dans la nature. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il y a eu un apport d'eau fortement minéralisée anormale. Si ici j'ai 110 et 89 ici, si je n'ai pas fait cette carte initialement, je ne saurais pas dire si c'est une pollution ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça va me permettre de localiser une pollution. L'intérêt, c'est de détecter très vite une pollution, de la localiser très vite pour faire des photos, vidéos, huissiers, etc. Le problème d'une pollution, c'est qu'on s'en rend compte souvent des années après. À moins que vous surveilliez la microfaune dans les rivières tous les jours, je sais pas. On peut s'en rendre compte très très longtemps après. Donc le but, c'est de détecter des pollutions le plus tôt possible. Voilà. L'idée de ça, c'est en fait de mettre un petit peu la pression, de dire voilà, on pourra réagir, vous ne pourrez pas forcément faire n'importe quoi. Donc peut-être que vous pourrez vous inspirer de ça. Donc je passe la parole.
Je peux revenir sur une définition que tu disais tout à l'heure quand on disait qu'il y avait pas de nappe phréatique et que tu parlais de fissures géologiques. Qu'est-ce que fissure géologique ou faille géologique, je ne sais plus quelle est.
Fracture. Faille, c'est vraiment des gros systèmes. Mais je disais, tu connais l'état de poids par exemple?
Non.
Crozon. Mmh. Regarde un granit, sur la mer, on en voit beaucoup d'affleurements. Tu verras que c'est naturellement fracturé. Même le granit, qui est une roche très dense, très imperméable, elle est fissurée. Donc l'eau, ça s'infiltre partout. Ça arrive à circuler là-dedans. Le réservoir fracturé le plus connu, c'est ce qu'on appelle le karst, dans les calcaires, même s'il est un peu particulier. C'est le calcaire, une roche imperméable, c'est fracturé, donc l'eau arrive à s'infiltrer. Il y en a les mêmes types de ressources dans les granits.
C'est le granit diaclasé.
Voilà, diaclase, c'est un autre terme pour fracture. A l'inverse, une nappe phréatique, c'est une roche qui s'imbibe d'eau. C'est vraiment comme l'éponge, ça s'imbibe d'eau. Mais en fait, il vaut mieux dire eau souterraine. C'est comme ça que...
Ce ne sont pas des poches.
Non, il n'y a pas de vide, à part dans les karsts, c'est des exceptions. Il n'y a pas de vide sous terre. Aucune chance.
Une
nappe, c'est un grès, un sable.
D'accord.
Tu déposes du sable avec des rivières pendant quelques millions d'années, ça se transforme en roche. Et dans le sable, dans 10 litres de sable, tu peux faire infiltrer, tu prends un seau de sable de 10 litres, tu remplis de sable, tu peux faire infiltrer 2, 4 litres dedans, avec ton petit arrosoir, si t'es patient. Il y a une porosité. C'est ça une nappe phréatique, c'est de la roche poreuse imbibée d'eau.
Voilà.
Juste pour l'analyse d'eau, vous avez dit sans les pesticides et sans
les bactéries.
Très bien, merci.
C'est le programme RS sans pesticides, sans bactéries. Mais en gros, c'est tout ce qu'est capable de faire un laboratoire en termes de métaux.
D'accord.
depuis sélénium, mercure, etc., etc. On a fait tout ça. Et on va compléter avec des petites analyses où là on va juste prendre conductivité, sulfate, mercure, cyanure et plomb et en fait on vise pas toujours dans l'analyse le polluant, on vise souvent un traceur, quelque chose qui va passer facilement dans l'eau et qu'on va retrouver dans l'eau, parce que tous les polluants migrent pas dans l'eau, beaucoup s'absorbent sur les sédiments ou dans les algues, donc mais bon je...
Là, vous avez donné un chiffre par point là, qui mesure la conductivité. Est-ce à dire que derrière ce chiffre-là, vous avez connaissance des métaux, des minéraux, vous parlez de sélénium, tout ça.
Non, non, mais
c'est global.
Ça donne, la concentration. Globale.
Justement, ça permet de contrebalancer si on a un élément qui manque dans une analyse. Donc on l'a en chiffré au point des analyses, mais... Après, on l'a en indicatif comme ça.
C'est comme un état zéro, en fait.
C'est un état zéro. Elle ne connaît pas.
Les métaux conduisent le courant, donc la conductivité, on peut voir si ça change ou pas, oui, déjà.
Je veux dire, vous n'avez pas une idée des métaux qu'il y a déjà là.
Alors, on a une idée avec les analyses RS qu'on a fait avec le Conseil général, financé par le Conseil général. Mais donc, on a 7 analyses RS qui ont été financées. Ça fait à peu près 3 700 € de budget. Et pour pallier à ce manque de budget, on a choisi la méthode de Pierrot, c'est-à-dire la conductivité, qui, elle, est quasiment gratuite. C'est-à-dire, c'est de la main-d'œuvre, se balader dans les rivières pour mesurer. Et c'est la seule qui est à peu près accessible à tous et qui est valable pour prouver une pollution. Donc le raisonnement, c'est le suivant, c'est de repérer la conductivité, et au lieu de faire des dizaines d'analyses à l'aveugle, on ne sait pas où, repérer dans un premier temps avec la conductivité, et là où la conductivité aura augmenté anormalement par rapport à l'état zéro, à ces endroits-là, revenir faire des analyses qui sont coûteuses et donc à des endroits déjà ciblés.
C'est deux couches d'information. En fait.
Voilà. Okay. Avant,
on n'hésite pas à cumuler les couches d'information. S'ils exploitent, on cumulera aussi sur l'air.
Je pratique les analyses d'eau avec des méthodes type bioélectronique de Vincent.
Ah oui.
Les phénomènes de calcul de conductivité de l'eau, je suis d'accord avec ça. Il faudrait peut-être le coupler avec la matière organique. Parce que la matière organique chargée dans l'eau conduit aussi.
On a le COT, on a sur les analyses.
Mais alors, c'était pour vous poser une question, parce que quel type de terre, d'exploitation avez-vous autour, dans ce périmètre? Parce que nous, avec les...
Sauvage.
Parce que nous, avec les exploitations que l'on a, où la terre est labourée à fond, la moindre pluie évacue tout ça. Voilà.
On n'a pas l'agro-industrie que vous avez ici.
Donc on a une différence importante au niveau de la situation topologique.
Voilà, du coup, pour l'eau. Donc moi, je vais nous présenter un peu. Donc on est un collectif creusois de citoyens et d'associations, le collectif Stop Mine 23, qui s'est créé en réaction au permis de recherche de Villerange. Donc un permis de 49 km², un petit permis par rapport au vôtre ici, mais on va voir après que ça ne veut rien dire. Et donc voilà, les associations et les citoyens se sont groupés dans ce collectif. Donc on essaye de faire essentiellement sortir les informations que veut cacher la préfecture d'un côté et la société qui vient exploiter chez nous de l'autre. Donc chez nous, c'est une société, une petite société en apparence, puisque c'est une société qui a été créée en France, la Cominor, qui appartient à La Mancha. La Mancha, elle, qui appartenait jusqu'en 2012 à Areva. Société, donc La Mancha, société minière qui a des actifs en Afrique, au Soudan, en Côte d'Ivoire, et maintenant ils ont l'intention de venir explorer en France. Donc cette société La Mancha, une société canadienne, puisque le Canada apparemment est le paradis des compagnies minières, détenue Donc depuis 2012, quand Areva a cédé cette société, elle l'a cédé à un fonds d'investissement Weather 2, qui appartient à un milliardaire égyptien. Voilà un peu pour la nébuleuse. On a fait quelques recherches, on aurait besoin d'aide, mais en gros, le système de fonctionnement est le suivant. L'entreprise est en France, mais tous les capitaux viennent du Luxembourg. Il y a à peu près 4 entreprises dénommées La Mancha au Luxembourg, et donc ils ventilent comme ça. La maison mère est au Canada et les fonds arrivent au coup par coup quelque part du fonds d'investissement égyptien. Voilà. Donc nous, on est un petit permis. On est géologiquement dans une région qui vous ressemble énormément, Pierre le disait. On est une région qui a un lourd passé aussi à cause des mines d'uranium, de l'exploitation de l'uranium en Limousin, mais aussi des mines qui exploitaient les métaux comme les mines d'or. Donc nous ici, vous voyez une photo aérienne qui a été prise, il me semble, en 98 de la mine d'or, l'ancienne mine d'or du Châtelet. Voilà, donc ça, c'est assez représentatif d'une pollution minière. Donc,
les couleurs sont naturelles.
Les couleurs sont naturelles. Donc, en rouge, à confirmer par les géologues, mais en rouge, des déchets de cyanuration. Donc, le cyanure en rouge. On voit des traces violettes qui apparemment pourraient être soit du chrome, soit du mercure. Bref, vous avez une montagne artificielle de 500 000 tonnes de déchets miniers. Donc, bien sûr, comme vous, on nous oppose le concept de mine propre. Et on nous dit que l'exploitation ne se fait plus comme ça, puisque la mine du Châtelet a été exploitée de 1900 à 1950. Et pendant 50 ans, tout est resté comme ça. Les fûts de produits dangereux étalés par terre. Et donc, chose curieuse, sur cette photo qui vient du DVD de la préfecture, ils ont resserré un peu plus, parce qu'en bas, coule la Tarde, et donc on est en pleine zone naturelle 2000 de la vallée de la Tarde. Voilà. Donc, en 1900, effectivement, c'était pas un problème pour les miniers. On choisit un site minier au bord d'une rivière, on disait que c'est beaucoup plus pratique pour les rejets. Et l'industrie minière a besoin d'eau, donc de toute manière, elle sera forcément à proximité d'une nappe ou d'une rivière. Et on crée, donc vous voyez ici les restes de l'ancienne usine, et on crée une verse à stérile, et on verse le stérile au bord de la Tarn pendant 50 ans. Donc, actuellement, le site a été mis en sécurité, donc une mise en sécurité tardive, puisque les travaux se sont finis, donc fermeture de la mine en 1950, les travaux se sont finis en 2011. Voilà, donc vous voyez, 60 ans pour mettre en sécurité ce site. Alors j'insiste sur le terme de mise en sécurité, parce que vous allez y être confronté quand on parle de réhabilitation d'une mine, on vous balade. Nous, donc c'est une poubelle, on pousse les déchets, on met une bâche plastique très performante, ils vont vous le prouver, très épaisse, par-dessus ces déchets, et on remet bien sûr 10 cm de terre végétale. En fait, c'est du paysagisme, c'est pas vraiment, ça n'a rien d'une dépollution. Qui plus est, nous, le site a été réhabilité à moitié, faute d'acteurs sur le terrain pour défendre le site et pousser l'État à réhabiliter, à mettre en sécurité entièrement. Donc, pour vous donner une idée de chiffres, pour 4,5 millions d'euros, nous, on a 500 000 tonnes là-bas de déchets. Pour 4,5 millions d'euros, on met sous bâche la moitié de ces déchets. Donc, nous, il faudra encore déverser au moins le double pour mettre en sécurité le reste et finir le travail. Et on en parlait, des milliers d'années de pollution, sans aucun doute. Nous, au cœur de ce site, une alvéole avec les produits les plus dangereux enfermés dans une bâche en caoutchouc soudé, que tout le monde a oublié chez nous, mais que nous souhaitons remettre d'actualité, puisque cette alvéole crache une eau polluée en permanence. C'est un site qui nécessite beaucoup de maintenance, du désherbage, puisqu'il ne faut pas que les arbres percent la bâche, l'alvéole, et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Voilà, donc, voilà pour vous donner une idée de la pollution. Alors là, on voit bien hein, la versa stérile, très importante. Donc on concasse le minerai, on le traite par cyanuration, donc nous au début au mercure, pendant 5 ans, puis par cyanuration, et on verse les stériles quelque part. Voilà ce qu'on peut dire. Alors on va vous opposer le problème de la technique, puisque apparemment Emmanuel Macron a envie de croire que les mines sont propres. Il faut bien se dire que la technique de la cyanuration n'a pas changé. Elle a évolué, certes, mais ils ont amélioré pour eux le rendement, c'est-à-dire quel taux de minerai ils vont extraire, mais pour nous, ça ne change rien. La seule technique qu'on peut noter qui a un peu changé, c'est la technique de gestion des stériles. Donc pour vous donner un exemple, une mine d'or, nous, qui a été exploitée dans le sud du Limousin jusqu'en 2002, donc pareil, on insiste sur ce fait-là, c'est pas vieux. Les techniques ont changé. Au lieu de déverser des stériles en montagne, on va chercher à les cacher. Donc au Canada, qu'est-ce que ça fait? Au Canada, ça fait des grands bassins immenses avec tous les stériles déversés dedans. Nous, à notre échelle, pour une mine d'or qui sort 2 tonnes d'or par an, ça représente un lagon, on va dire, de 20 hectares. Donc, la technique est la suivante, c'est quand même plus discret. On prend les résidus miniers, on les envoie dans une lagune avec une digue, et on met de l'eau par-dessus ces déchets pour, on va dire, dissimuler un peu tous ces déchets.
Donc c'est toujours,
on va dire que c'est aussi polluant, c'est différent, la pollution est relarguée sans arrêt. Donc nous, là où on est inquiet, c'est que, par exemple, je vous parlais de cette mine d'or au sud du Limousin, le directeur d'exploitation de cette mine d'or revient chez nous et chef du projet chez nous. Bien sûr, il nous soutient que tout a bien changé et que tout ça va se faire proprement, mais on a vu, donc, par notre expérience, c'est ça qui nous intéresse, que personne, ni les services de l'État, ni personne, ne va arrêter cette pollution une fois qu'elle sera engagée. Sur la mine d'or du Bournais, donc au sud de la Haute-Vienne, vous avez des rapports confidentiels du BRGM qui prouvent la pollution depuis 1994. Ça ne les a pas empêchés de reverser leurs déchets jusqu'en 2002 au même endroit. Et bien sûr, on va dire que tout est organisé pour que vous en sachiez le moins possible. Aujourd'hui, le site des mines d'or du Bournais fait l'objet d'un suivi, puisqu'on parle dans les mines beaucoup de suivi, mais c'est un leurre. Pour vous donner un exemple, et peut-être le professeur Picot pourra vous confirmer, ils vont suivre un seul paramètre, l'arsenic, voilà, en permanence. Alors que le BRGM met en lumière bien d'autres métaux, l'antimoine, le cadmium, des taux de sulfate énormes, mais l'adréal et les administrations se concentrent sur le paramètre arsenic. Voilà un peu ce qu'on peut dire, voilà, nous, de notre héritage des mines d'or. Donc vous voyez que ce n'est pas très, très engageant. Donc simplement pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce que du coup, moi je vous écoutais parler et je me faisais la remarque que on axe notre argumentaire essentiellement sur aussi ce qui va venir après l'exploration, c'est-à-dire une usine de cyanuration et l'enfouissement de l'arsenic. Parce que l'usine, il faut bien comprendre que nous, on a subi 9 ans de recherche par Total. Donc nous, ils viennent en Creuse, ils connaissent très bien les gisements, malgré ce qu'ils disent dans les médias, ils connaissent tout à fait les gisements, et ils ont été jusqu'à une demande de concession en 1989, suite aux recherches, la compagnie minière demande sa concession, et l'obtient pour, on va dire, une seule bonne raison pour les services de l'État, c'est l'argent qu'ils ont dépensé pendant les recherches. Donc ça, c'est, nous, c'est ce qu'on a appris de ce dossier. C'est-à-dire que, bien sûr, dans leur dossier, ils vont évoquer les zones d'intérêt sensibles, les zones naturelles, tout le reste, mais on voit bien que les réponses de l'administration sont axées sur un seul point essentiel, c'est-à-dire combien la compagnie minière a dépensé. Donc nous, en 1989, on en était là, la compagnie Total Compagnie Minière avait dépensé 49 millions de francs sur ce permis de recherche et comptait exploiter 30 tonnes d'or, gisement trouvé, plus tous les gisements alentour. C'est-à-dire, ils sont clairs dans cette demande de concession, elle est édifiante. Eux, ils ne vont pas s'arrêter à votre permis, eux, ils réfléchissent en région géologique, tout simplement. Voilà, donc, si vous voulez, la construction d'une usine, leur donne le droit aussi. Alors, ils se plaignent, ils savent se plaindre, donc ils disent au gouvernement, vous comprenez, notre usine va nous coûter cher, donc pour la rentabiliser, on va vous demander d'exploiter tous les gisements alentours. Voilà. Donc la raison pour laquelle nous, la demande de concession n'a pas abouti, ils se sont plantés dans la première enquête publique, ça n'a pas été publié dans le journal et ça leur a été opposé. Ils sont en pleine confiance, hein, donc ils peuvent faire des erreurs aussi. Et deuxième enquête publique en 93, à l'époque, nous, Total, même pour les mines d'uranium, ils commençaient à trouver pas très rentable et ça devenait pas très rentable d'exploiter en France, le cours de l'or chutait. Donc en 97, réponse du ministère de l'Industrie, la concession est refusée. Voilà. Alors que, j'insiste sur ce point, dans le dossier, dans toutes les lettres de l'administration avant, la concession était accordée. Hein. Donc c'est au bon vouloir de l'administration et surtout, je pense, des compagnies minières. Voilà. Donc nous, sur ce point-là, on essaye d'alerter les gens, c'est-à-dire que le moindre euro dépensé dans l'exploration, c'est autant de chances de voir l'exploitation arriver en suivant. Donc pareil, je vous entendais parler tout à l'heure de TAFTA, donc on a des exemples plus concrets que ça, par exemple un permis minier en Guyane, qui a été, cassé par Nicolas Sarkozy à l'époque. Un peu pour se faire de la pub, sans doute, au Grenelle de l'environnement. Donc c'était à cette époque-là. Le ministère de l'Industrie a dit à la compagnie minière IAMGOLD en Guyane, vous arrêtez tout, le projet est trop dangereux pour la zone, vous arrêtez tout. Mais qu'est-ce qu'a fait IAMGOLD? Tout de suite, c'est tribunal. Donc, dans un premier temps, ils ont demandé 220 millions d'euros. Et en cours d'appel à Bordeaux, ils ont demandé, ils étaient en pleine confiance, ils ont demandé 760 millions d'euros de dommages et intérêts à l'État français. Voilà comment finissent les conflits entre les miniers et l'État sur les permis de recherche. Voilà, donc c'est pas insensé de dire que finalement, ils demandent, quand ils n'ont pas eu le permis minier, ils demandent une partie du gisement à l'État en dédommagement. Voilà. Donc, je disais aussi quelque chose qui nous inquiète, c'est l'enfouissement d'arsenic, puisque ça, c'est une technique canadienne, donc éprouvée, nous, dans le sud du Limousin, dans les mines du Bournais. Pour avoir moins d'arsenic à stocker, ce qui était un gros problème à Salsigne, des rapports canadiens prouvent le bien fondé d'une technique un peu particulière dont je vous laisse juger l'opportunité, c'est-à-dire de prendre l'arsenic qu'on produit chaque jour, le mélanger à un béton avec de la chaux qui est censé neutraliser cet arsenic. Et donc, une fois qu'on n'a plus besoin de notre galerie, on descend avec notre camion. Donc, dans les mines du Bournais, on a la confirmation que c'était tous les jours, journalier. On descend avec notre camion et on déverse le béton chargé d'arsenic dans les galeries. Aucune étude là-dessus ne prouve que le béton ne va jamais bouger, parce qu'on est sur des échelles, sur un millier d'années, on n'a aucun retour. Et bon, même au Canada, ils hésitent à employer des fois cette technique. Bon, ils sont un peu plus forts que nous. Ils ont des grands scientifiques qui ont trouvé un moyen de congeler l'arsenic là-bas. Et donc, ils considèrent qu'en congelant l'arsenic dans leur mine, ils n'auront pas de problème. Voilà. Donc, tout est relatif. Tout est une question de point de vue dans ces dossiers. Bon, je ne vous cache pas que nous, les informations qu'on arrive à récupérer, ce n'est pas toujours simple. On a peu de dialogue avec la préfecture. J'entendais parler de commission de suivi tout à l'heure. Donc nous, on s'est inscrit à la commission de suivi. Peut-être que vous en avez plusieurs aussi, parce que c'est, en tout cas pour nous, c'est des arrêtés préfectoraux. Donc c'est le préfet, donc je ne sais pas si ça concerne plusieurs préfectures ou pas. En tout cas, nous, on s'est inscrit en commission de suivi. Pas tout de suite, parce qu'à la base, on n'avait pas d'association à nous, mais finalement...
On sait bien que c'est fantoche aussi, en fait, pour avoir les informations du préfet. Voilà. Ça fait rien. Voilà. Déjà, quand on suit, ça veut dire qu'on est quand même en train de commencer, on s'interroge. Donc on
quelque part, suivre, c'est aussi accepter cette exploitation. Et il ne faut pas se leurrer, dans ces réunions, vous n'aurez quasiment aucune information valable. Ils vont répéter ce qu'ils ont déjà dit 100 fois et vous n'aurez rien de plus. La préfecture ne s'engagera jamais dans ce type de réunion, vous n'aurez pas de réponse. Donc il faut vraiment y aller. Pour y aller, il faut être zen. il faut avoir du recul et se dire que on fait ça, mais on sort vite fait. Nous, on connaît des gens qui se sont retirés des commissions de suivi sur l'uranium. Parce qu'ils ne tenaient plus. Et pourtant, c'est des gens beaucoup plus qualifiés que nous. Ce sont des juristes, ce sont des gens qui se battent au quotidien pour la réhabilitation des mines d'uranium et la gestion des déchets d'uranium dans les mines, qui est vraiment pas réglée. Donc ça vous donne un peu le ton de ces réunions. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, du côté de l'eau, bien sûr, on essaiera d'attaquer sur la loi sur l'eau. Ça ne va pas être chose facile, puisque si dans les faits, le droit est avec nous, dans l'interprétation des faits, le droit a peu de chances d'être avec nous. Tout simplement parce que ces permis miniers ont beaucoup de poids et on a vu utiliser la loi sur l'eau pour des golfs, pour des petites carrières, mais pour un projet national de reprise de l'exploitation minière, voire européen, on va en chier. Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment pas simple. Donc nous, notre permis a été accordé, l'exploration a commencé. Une exploration vraiment superficielle, presque une technique, elle fait partie presque de la technique de communication. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des petites tarières, des pioches toutes neuves, et ils ont prouvé à tous les creusois via les médias locaux, France Bleu, La Montagne, ils ont prouvé France 3, bien sûr, qui est leur grand copain. Ils ont prouvé à tous les creusois que l'exploration n'était pas dangereuse. Je prends une petite poignée de terre, je remets la motte, je tapote. J'arrose. Voilà où on en est. Donc pendant cette année, voilà ce qui s'est passé. On avait vraiment l'impression qu'ils n'étaient pas pressés de venir travailler.
Et rien que pour faire ça, ils ont été emmerdés par des manifs quand même. Ils ont reculé la date.
Voilà.
Là, ça gueule, on peut y aller maintenant.
Par mon faute,
C'est pas une blague de Pierre, ça. Hein. Je sais pas si vous comprenez bien. La petite poignée de terre et la motte remise, c'est pas une blague de Pierre. C'est passé sur FR3 régional. On voit une dame géologue qui prend sa petite pelle de comme un enfant, qui fait un petit trou. Oui, oui, c'est pas une blague. C'est vraiment au premier degré. Faut prendre ça au sérieux. Ça veut dire que c'est cette communication-là qui vous endort en permanence. Et sans doute, une majorité de gens prend ça pour vrai au premier degré, comme des enfants. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il y a un double niveau de communication. Il s'adresse à une masse d'enfants en disant, tu vois, mon petit, regarde l'exploitation minière, on prend comme ça, et voilà. Et la marmotte, elle met le... Hein, c'est ça.
Donc voilà pour la première phase de recherche. Là, on entre dans une deuxième phase avec une déclaration de travaux qui a été déposée en préfecture. Donc cette phase-là, ce sont les foreuses qui arrivent. Bon, voilà, je le redis, mais pour bien resituer, mais ils ont tout ce qu'il faut comme données, nous, puisqu'ils ont déjà, Total a déjà fait 24 km de forage, de sondage carotté. Donc ils ont toutes les données, mais ils vont en refaire 6 km pour être dans leur droit vis-à-vis du ministère de l'Industrie, pour demander, eux, leur propre demande de concession. Voilà, donc c'est un peu un remake à moindre frais de ce qu'a fait Total par le passé. Donc cette année, prévue 1,5 million d'euros de dépensés dans 6 km de carottage. Voilà, ça donne une idée des travaux. Donc la déclaration de travaux a été déposée en préfecture. Bien sûr, on nous oppose le fait qu'il a le droit d'en parler à la radio et d'expliquer sa déclaration de travaux, mais nous n'y avons pas encore accès. Il faut savoir, donc ça, par exemple, pour vous, ça pourrait vous servir pour le permis de Merléac. La déclaration de travaux est déposée en préfecture. L'ADREAL va l'étudier, bien sûr. Mais nous, pour pouvoir l'attaquer, il faut avoir cette déclaration en main le plus tôt possible. Et la technique de la préfecture, c'est de vous donner cette déclaration de travaux uniquement quand elle donne récépissé, c'est-à-dire quand elle l'autorise. Voilà. Donc, pour vous dire, il ne faut pas vous attendre à grand-chose. Au niveau régulation, au niveau de la préfecture, au niveau à quelque niveau que ce soit, il n'y a aucune régulation vraiment possible. Bien sûr, le droit d'attaquer cette déclaration de travaux au tribunal administratif, comme je vous dis, c'est pas gagné. Ouais. Après, pour revenir à une question que vous posiez aussi pour les forages de plus de 100 mètres ou de moins de 100 mètres, le monde des miniers est vraiment bien fait, puisque donc autrefois on avait besoin au-dessus de 100 mètres, on avait besoin d'une autorisation de travaux, donc plus contraignant qu'une simple déclaration de travaux, puisque l'autorisation de travaux demande une étude d'impact. Une enquête publique plus contraignant. Mais le monde des miniers est bien fait et en début 2014, pour vous et pour nous, un arrêté ministériel passe par là et autorise, que ce soit moins de 100 mètres ou plus de 100 mètres, pour les recherches géologiques et pour les recherches minières, de forer à n'importe quelle profondeur sans autorisation. Nous, on va essayer de se battre un peu là-dessus, mais alors ça va être, c'est un casse-tête. C'est-à-dire qu'il y a une circulaire qui a été passée dans toutes les préfectures pour dire aux préfets et aux services de la préfecture, et surtout à l'ADREAL, comment interpréter ces textes. Le seul point nous, où on pourra se battre, c'est, même si une circulaire n'a aucune valeur juridique, c'est qu'il précise bien dans cette circulaire que ces sondages de recherche géologique et minière doivent avoir un but d'exploration. Or, nous, on sait qu'ils ont déjà exploré, qu'ils ont déjà caractérisé les gisements. Donc, vous voyez, le seul point de détail sur lequel on pourrait envisager d'attaquer, c'est celui-là. Donc, on y croit assez peu. C'est-à-dire, quand on va leur dire que ils savent très bien ce qu'il y a dans le sous-sol et que ce n'est plus de la recherche, mais c'est pour aller plus loin que la recherche et découvrir un peu plus le gisement. On verra leur réponse, mais bon, pour l'instant, on met peu d'espoir là-dedans. Voilà pour les forages.
Nous, on compte aussi le plus, c'est sur nous-mêmes, hein, c'est sur nos points forts, c'est, on sait faire du foin, on en fait. Donc, on fait des réunions publiques, des manifs et des festivals, d'ailleurs, auxquels vous allez venir, là, le 25 juillet.
On vous convie.
Et, ben, en fait, mais c'est, on peut se dire, ah, ça fait rien, les manifestants, gna. Mais le permis, s'il y a des chieurs, ils perdent de la valeur aussi. S'ils veulent le revendre, s'ils veulent dire, ça se voit moins bien, parce qu'il y a quand même, il y en a qui peuvent énerver le monde, on ne sait jamais ce qu'ils sont capables de faire. Voilà.
Donc, il y a une précision de fait, c'est qu'au niveau de l'exploration, on vient préciser qu'au départ,
C'est presque rien ce que t'expliquais, Pierre, hein, c'est qu'ils viennent dans les jardins ou dans les champs prendre un petit peu de terre. Ça s'est déjà passé, je crois, à Merliac, ils ont été bien reçus parce que c'est des gens, ils leur disent, ils sont assez polis, donc ils disent on peut prendre un petit peu de terre et ils disent bah oui, un café en plus, etc. Mais que dès le départ, même le fait de prendre un peu de terre, ça va aller plus loin ensuite et que c'est déjà le début de l'exploration. Même si ça nous paraît peu, à partir du moment où il y a l'autorisation de rentrer sur le terrain, je crois que c'est vous êtes confronté à ça.
Nous, on est confronté à ça parce que effectivement, nous, ils ont pris les devants très tôt, avant même que le permis ait été accordé. Ils avaient déjà pris rendez-vous avec les propriétaires. Et donc là où ils n'ont pas été idiots, c'est-à-dire qu'ils ont, ciblé une toute petite zone sur le permis, et c'est là-dessus qu'ils font leur recherche. Ça représente à peu près 18 propriétaires. Propriétaires chez lesquels Total travaillait à l'époque, et donc ils savaient que dans ces propriétaires-là, il y a des gens qui ont reçu de l'argent de la part de Total, et donc ils savaient qu'ils auraient un écho plus ou moins favorable. En resserrant le groupe de personnes à 18, de propriétaires, nous la stratégie qu'ils ont adoptée. Et donc, c'est vrai que ça donne une bonne indication, c'est-à-dire que le premier moyen de lutter, c'est essayer de fédérer tous les propriétaires terriens et de les amener à refuser cette exploration. Donc, il faut savoir que dans le code minier, c'est pas trop mal fait. Hein, normalement, il y a un formulaire à remplir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc, la SARS, Maurice Georges dans la SARS a utilisé un formulaire à faire remplir à tous les propriétaires et donc cocher les raisons pour lesquelles ils refusent ou ils acceptent l'exploration. Donc, nous, on a essayé de le faire remplir. Ça a été mission impossible. Et c'est au bon vouloir de la préfecture. C'est-à-dire que ce formulaire n'est pas obligatoire. Nous, les recherches ont commencé sans signature, simplement avec un accord verbal. Donc là, on nous a promis pour la prochaine phase pour les forages, il y aurait besoin de la signature, bien sûr, des propriétaires. Voilà.
Mais c'est pas pour autant qu'ils sont tous vraiment, ils sont pas forcément tous emballés, mais il suffit d'en trouver un ou deux chez qui on peut faire des plus gros trous. Mais après, c'est si les autres sont contre, c'est un mode de pression, quoi. S'ils voient que le terreau est pas favorable, on se dit merde, on va être mal accueilli. Donc c'est aussi c'est notre rôle de communication aussi est important. C'est, même si on dirait que les gens sont pas d'accord. Ils ont des informations et c'est pas pour autant qu'ils vont se dire les miniers c'est des biens gentils. Le seul argument qu'ils ont localement pour faire de la valeur locale c'est l'emploi. Donc on peut dire bah oui, j'ai qu'à faire des emplois de serial killer ou d'emmerdeur public au téléphone, je vais pas me planter là. Moi c'est de l'emploi, c'est de l'emploi. Des emplois de forcerie industrielle, bah, c'est de l'emploi, c'est de l'emploi. Tous les emplois ne se valent pas. Hein.
Merci.
À la préfecture, ils ont quand même, à la préfecture avec les élus, ils ont redit qu'il n'y aurait pas d'emploi. Que ça serait pas. Qu'il y en aurait très peu.
Oui, ils ont dit ça aussi. Nous, ils sont revenus, ils ont compris que ça marchait pas.
Et ils ont dit que ça viendrait pas d'ici.
Oui, voilà.
Ils ont dit qu'on prendra de l'emploi, mais on fera venir du personnel.
Des spécialistes.
Ah. Oui. Alors,